Voilà, frères et sœurs, nous sommes dans la louange, même si le texte que je vais vous prendre est un des textes difficiles du Nouveau Testament. C'est la suite de ce que nous lisons habituellement lors de la Sainte Cène. Alors pourquoi ce texte ? Parce que j'avais tellement de choses à vous apporter que je me suis dit, non, je ne vais pas penser à tout ce que je dois apporter, mais je vais ouvrir ma Bible, et puis je verrai quel texte, donc, cette semaine. Et 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. Ah, très bien. Ben, nous allons examiner 1 Corinthiens au chapitre 11, mais remonter un peu plus haut, à partir du verset 27. Et comme l'apôtre dit qu'il ne domine pas sur la foi des chrétiens, mais qu'il contribue à leur joie, dans tout ce qu'il apporte en fait, c'est pour contribuer à la joie, même lorsqu'il s'agit de reprendre, d'avertir, de corriger. Le but est toujours le même. Et ici, donc, nous allons relire ce texte, chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres, si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voilà donc ce texte où il est question en fait du jugement de soi-même. Et il y a deux mentions à examiner. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et la seconde, si nous nous jugions nous-mêmes. Alors, d'abord, je voudrais décorréler ce sujet de la question du jugement d'autrui. En allant de référence en référence, on peut arriver finalement à tomber sur les textes qui parlent, où le Seigneur nous donne un enseignement concernant le non-jugement d'autrui. Ne jugez pas autrui afin que vous ne soyez pas jugés vous-même. Et il y a tout un enseignement très important à ce sujet. Mais ça n'intervient pas ici. Ici, c'est la question de la scène et d'être devant le Seigneur. Et le Seigneur nous demande d'examiner notre relation avec lui et notre intégration à son corps, qui est l'Église. Et d'ailleurs, donc, c'est bien cette nuance dans les termes qui indique le regard du Seigneur sur chacun et le regard du Seigneur sur le rassemblement de ses enfants. Celui qui mangera le pain ou boira, que chacun donc s'éprouve soi-même. Dans cette partie-là, il s'agit de s'examiner donc individuellement, personnellement, par rapport au Seigneur. Et puis, En préparant, je me suis aperçu que la seconde expression n'était pas la même. C'est si nous nous jugions nous-mêmes. En tant que corps encore, en fait, ça renvoie à l'Église, à l'examen de ce qui se passe en son sein lors de son rassemblement. Le monde est condamné afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il y a le monde et il y a l'Église. Le monde est condamné à cause de ses, entre guillemets, dysfonctionnements. C'est un euphémisme. Qu'en est-il de l'Église ? Cet examen de l'Église est très pratique, puisqu'ici, il s'agit de s'attendre les uns les autres pour le repas du Seigneur. De ne pas laisser l'un avoir faim et l'autre s'être enivré, c'est au début du chapitre. Lors que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Donc c'est de cela en fait que l'apôtre, c'est de là que part l'exhortation de l'apôtre. Un désordre qui s'est installé dans le rassemblement lui-même. Et donc, l'apôtre demande à l'Église de se juger au sujet de son rassemblement. Il y a donc deux aspects à cette exhortation. L'aspect personnel, l'examen de soi par rapport au Seigneur et aux relations que nous avons avec nos frères et sœurs. Et puis, il y a l'Église elle-même en tant que corps qui doit examiner son fonctionnement, si la manière dont elle se rassemble, donc elle célèbre le repas du Seigneur, est correcte vis-à-vis les uns des relations les uns avec les autres, en fait. Donc on peut voir déjà quelques références qui s'appliquent à que chacun donc s'éprouve soi-même au sujet de sa foi personnelle, en fait, la manière dont il aborde le temps devant Dieu par la scène. Que chacun s'éprouve soi-même. Il y a plusieurs passages dans l'Écriture où l'apôtre demande aux chrétiens de s'examiner. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. En fait, au début de ce chapitre de 1 Corinthiens chapitre 11, il est aussi question des divisions dans l'Église, ceux qui sont approuvés, ceux qui ne le sont pas. Qu'il y a ça forme en fait cette Église formée c'était déjà, on peut dire, au sein même de l'Église, des sectes qui se formaient. C'était encore une Église qui semblait unie, mais c'était déjà une Église où il y avait en son sein des sectes, des divisions. Et cela, bien sûr, met en cause la foi. Pourquoi est-ce que nous avons véritablement, est-ce que nous sommes véritablement dans la foi, dans une foi qui nous est commune? Et est-ce que ensemble, dans 2 Corinthiens 13, le contexte, c'est de pratiquer ce qui est bien entre nous. Pratiquer ce qui est bien. Et, bien sûr, dans le monde aussi, pratiquer ce qui est bien. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. C'est cela que nous devons examiner en chacun d'entre nous, en nous. Et exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, parce que nous sommes devenus participants de Christ. Enfin, nous avons comme référence 1 Jean chapitre 3, versets 18 à 23. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Voilà ce que nous sommes appelés à examiner, à éprouver dans notre cœur. Est-ce que nous sommes dans cette foi qui nous relie à Dieu et qui nous met au service de notre prochain et dans l'amour de notre prochain, l'amour des frères plus spécialement, des membres du corps de Christ. Aimons-nous les uns les autres. Donc si chacun est dans le bon esprit de foi au Seigneur et d'amour des frères et sœurs, alors le Seigneur va approuver l'acte que nous faisons ensemble de nous approcher de lui par le moyen de la scène. Et donc l'Église, en tant que telle, doit juger la manière dont les choses se passent en son sein, lorsqu'elle se rassemble. Alors bien sûr, à ce moment-là, l'Église se rassemblait d'abord pour prendre le repas, et voilà, le repas en lui-même était la réunion de l'Église, quoi. Et c'était très important à ce moment-là que ce repas se passe vraiment dans des bonnes conditions pour que le Seigneur soit honoré. Mais même lorsqu'il ne s'agit pas de manger, enfin bien sûr qu'il y a au cœur du culte la Sainte Cène qui est le repas du Seigneur, mais même lorsqu'il n'est pas seulement question de manger, les relations que nous avons entre nous, que nous avons établies entre nous, le respect mutuel, l'intérêt que nous avons les uns pour les autres, la manière dont nous sommes en relation les uns avec les autres intervient lors de ce culte. Et la manière dont nous intervenons lors du culte, la manière dont nous faisons place les uns aux autres, dans un plein respect, dans un partage ordonné qui permet que nous entendions, que nous écoutions, que nous recevions, que nous partagions ce que le Seigneur a apporté à chacun d'entre nous. Alors, nous juger nous-mêmes ici, c'est nous juger en tant qu'assemblée. Est-ce que nous avons un culte et qui correspond justement pas seulement à un rassemblement du dimanche matin, mais à une communion que nous avons en Christ en général, dans toute la semaine, pendant tous les jours en fait, une véritable communion que nous établissons en Christ. Et est-ce que nous permettons que le Seigneur soit vraiment à l'œuvre par son Saint-Esprit lors de notre rassemblement? Et donc, nous pouvons appliquer à l'Église les exhortations qui sont faites aux personnes dans les Écritures. En tant que corps, nous devons apprendre à nous juger nous-mêmes, de sorte que ce ne soit pas le Seigneur qui doive nous juger. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, nous mettons en place les bonnes façons d'être ensemble, et le Seigneur est satisfait et se réjouit de la manière dont il voit ses enfants être ensemble. Alors il y a un certain nombre de passages qui concernent la manière dont le chrétien, le croyant doit être en relation avec Dieu, mais nous pouvons l'appliquer à l'Église, de sorte que l'Église donc se place vraiment devant Dieu et devienne totalement lui plaise de façon de lui soit totalement agréable. Hein. Je vais prendre quelques références. Donc, par exemple, le psaume 32, verset 5, c'est le pécheur pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché, à celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Voilà, une église peut aussi avouer au Seigneur, oui, Seigneur, notre église n'a pas respecter la façon dont tu veux que nous nous rassemblions, la manière excellente de pratiquer le culte, et eh bien veuille nous pardonner cela, Seigneur, et le Seigneur le fera. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tout simplement. Chapitre 55, verset 7 d'Ésaïe. À partir du verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors bien sûr, c'est pour chacun d'entre nous et puis c'est pour l'Église tout entière également. Dans Job, chapitre 34, versets 31 et 32. Alors, bien sûr, à chaque fois, c'est tout un contexte, hein. Hmm. Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. Afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. C'est cette parole, montre-moi ce que je ne vois pas. À certains moments, nous sommes aveugles sur ce qui ne va pas bien, sur notre fonctionnement interne personnel, mais aussi en tant qu'Église. Donc, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Et là, je me placerai devant toi, je te dirai oui. Maintenant, corrige ce qui doit être corrigé. Donne à mes yeux la clarté, c'est cette autre expression qui est dans l'Écriture aussi. Donne à mes yeux la clarté. Si je suis droit et sincère devant Dieu, si en tant qu'Église, nous sommes décidés à recevoir la clarté du Seigneur, eh bien, il va nous la donner. Alors, bien sûr, l'apôtre Paul pourra dire pour lui-même, parce qu'il s'est examiné, je ne me sens coupable de rien. Il a pris le temps de l'examen. Il accepte d'être même jugé par les membres de l'Église, mais lui, il ne se sent coupable de rien devant le Seigneur. Il peut dire, c'est même pas pour ça qu'il dit que je suis justifié, mais parce que celui qui me juge, c'est le Seigneur. Le Seigneur me juge, j'ai la conscience d'être dans sa grâce, dans sa vérité, d'avoir obéi, eh bien, le Seigneur sera un parfait juge et il me justifiera. Alors, cette méditation m'avait amené plus loin sur le prophète Jérémie. Et il faut que nous le prenions parce que il y a quelque chose d'important, je crois, dans ce que dit le prophète, dans les Lamentations, chapitre 3. Alors, voilà. À partir donc du verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'Éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Parce qu'il arrive un moment où, à force de ne pas comprendre notre péché, nous nous retournons vers Dieu et nous nous plaignons, non pas seulement à Dieu, mais nous nous plaignons de Dieu. Il y a une référence ici qui nous mène, c'est Proverbe 19, 3. La folie de l'homme pervertit sa voie. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Si nous ne prenons pas garde, nous allons tomber dans un état d'esprit de plaintes. Et nous allons finir par ne plus comprendre du tout la justice de Dieu et nous plaindre de Dieu. Et à la fin, et c'est ce qui se passe en définitive dans le monde, c'est ça. Vous entendez constamment l'expression « mais s'il y avait un Dieu, pourquoi toutes ces choses se passent-elles ? S'il y avait un Dieu, il ne permettrait pas que. » Parce que le monde est entré dans le jugement de Dieu. Et l'Église et le croyant doivent prendre garde à ne pas dériver dans la même direction. Et pour ne pas dériver dans la même direction, il faut d'abord se replacer soi-même devant son propre péché. Et ce n'est pas une affaire. Il ne s'agit pas de se culpabiliser en permanence. Il s'agit de dire, si j'ai péché, Seigneur, montre-le-moi, je me repens de mon péché. Et je crois que tu es juste, que si des choses sont arrivées dans ma vie à cause de mon péché, elles étaient justes, et que tu seras capable de réparer, que tu seras capable de me restaurer. Je suis devant toi, je reconnais et je reçois ce que toi tu as préparé pour moi qui est juste, je le crois, à titre personnel et en tant qu'Église. Et donc c'est cela aussi, demeurer dans la foi. Nous sommes venus au Seigneur sur la base du pardon de nos péchés. Et nous devons rester sur ce fondement. Et alors nous sommes libérés, et alors nous trouvons un esprit de joie et de force, et le Seigneur nous purifie de toute iniquité. Là, nous vivons une belle vie chrétienne à partir de ce moment-là. Nous pouvons nous réjouir en Dieu et le Seigneur nous épargne les situations trop difficiles. Il nous épargne les épreuves trop grandes. Il est là, fidèle, pour être avec nous et nous bénir. Bien sûr, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur. Donc prenons cette bonne orientation à titre personnel et en tant qu'Église, et le Seigneur sera là toujours avec nous pour nous bénir et nous donner la joie et nous donner du bonheur et nous donner une belle vie. Parce que c'est sa volonté. Les Corinthiens ont dû apprendre cela parce que, ils avaient un contexte totalement désordonné. Ils connaissaient pas la sainteté de Dieu, la loi, tout ça. Ça leur était étranger. Donc ils ont dû apprendre. Et tous ceux qui apprennent, eh bien, ensuite tirent le bénéfice de ce qu'ils ont appris et mis en pratique de la part de Dieu. Je voudrais vraiment que vous, chacun d'entre vous, soyez libérés de tout fardeau, soyez libérés de toute crainte, soyez libérés de toute douleur, et puis que l'Église aussi, dans son ensemble, soit une Église qui marche librement devant Dieu, dans l'assurance. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors que le Seigneur soit béni, que nous soyons dans cet examen de notre relation avec Dieu, du bien que nous pratiquons selon ce que le Seigneur nous a enseigné, et puis de cet intérêt mutuel, de cette attention que nous portons les uns aux autres. Et là, le Seigneur va pouvoir faire de très belles choses en notre sein. Nous serons réjouis de ce qu'il accomplit. Amen.